Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
I have cherished the idea.
J'ai porté l'idée d'une société démocratique et libre, où tout le monde vivrait ensemble en harmonie, avec l'égalité des chances.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis l'Afrique du Sud, nous arrivent ces derniers temps de mauvaises nouvelles. Le président Jacob Zuma, qui est à la tête de l'État depuis 2009, vient d'être sévèrement désavoué par son propre parti, l'ANC, le Congrès national africain, deux ans avant la fin de son mandat. L'ANC a porté à sa tête un adversaire. Une vague de protestations populaires reproche à Jacob Zuma la corruption, l'arrogance et l'impunité qui prospèrent parmi les élites qui l'entourent et dans sa propre famille. Le rêve, naguère incarné par Nelson Mandela, se serait dégradé en cauchemar. Dans ce climat ressurgit avec une force renouvelée une inquiétude qui s'enracine loin en arrière, celle d'une dissociation du pays que travaillent en profondeur des forces délétères dans l'ordre social, économique, culturel, démographique et ethnique. L'apartheid est encore trop récent pour ne pas laisser derrière lui bien des traces pernicieuses et l'affrontement historique des pulsations coloniales hollandaises et britanniques n'a pas été effacé par l'issue de la tragique guerre des Boers qui les a vus s'affronter dans le sang au début du XXe siècle. L'Afrique du Sud, au péril d'une désunion dramatique replacée dans le long terme, nul n'était à mes yeux plus légitimé à en parler que François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS. Ses ouvrages, partout reconnus et salués depuis 15 ans, ont contribué à renouveler l'histoire du continent tout entier dans la longue durée. Et plus spécialement, sa partie la plus méridionale. Il est donc le meilleur des guides possibles.
Ini wema Afrika.
François-Xavier Fauvel, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre une chanson interprétée par Myriam Makeba, Pour ceux qu'on aime, une chanson de 1965. Myriam Makeba est chanteuse emblématique de la lutte contre l'apartheid.
Oui, en effet. Et puis on entend dans cette chanson qui est en crossard, donc qui possède des clics hein, caractéristiques de ces langues-là, on entend les noms des héros de la lutte qu'elle cite. Voilà, on entend... le nom de Walter Sisulu, on entend le nom de qui est en prison depuis 3 ans, au moment où elle chante, en même temps que Nelson Mandela. On entend le nom de Robert Sobukwe, qui était le fondateur aussi d'un autre grand parti d'opposition noire à la politique d'apartheid.
Ils sont tous dans la prison de, dites le nom.
Dans le Kronkro. Et effectivement, voilà, donc ces héros sont depuis récemment en prison. On entend aussi le nom de Albert Luthuli, qui lui n'est pas en prison, qui est le président de l'African National Congress, le Congrès national africain, voilà, qui
un
est
prix Nobel de la paix.
Prix Nobel de la paix en 61, voilà, et qui est le grand leader pacifiste de la lutte contre l'apartheid.
Alors nous allons avoir à cerner cet apartheid pour en comprendre à la fois les ressorts et peut-être la permanence, la prégnance dans l'Afrique du Sud aujourd'hui, même si elle a disparu. Dans votre histoire de l'Afrique du Sud, très précieuse, François-Xavier Fauvel, vous nous mettez en garde contre le risque de ne pas apercevoir ce que cet apartheid a de sui generis, de spécifique. Vous dites que ce n'est ni, malgré ce que certains disent, une sorte de calvinisme primitif qui aurait ressurgi. Ce n'est pas non plus un bastion arrière de la colonisation. Et ça n'est pas une version tropicale du fascisme ou du nazisme. Alors qu'est-ce que c'est ?
Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler ça. Et de la même façon, il faut résister aussi à la tentation de vouloir utiliser le mot d'apartheid pour désigner des phénomènes contemporains de nos sociétés, etc. Il y a quelque chose de très singulier dans l'apartheid sud-africain qui s'enracine d'abord dans un contexte historique qui est celui d'une longue colonisation, la plus vieille d'Afrique, qui commence au XVIIe siècle, bon, qui s'inscrit également dans un fait historique tout à fait singulier lui aussi, qui est celui d'une double colonisation, on y reviendra, mais d'abord hollandaise puis anglaise, et puis qui s'inscrit dans une invention politique propre à ce que ce régime blanc a fait à la nation sud-africaine à partir de 1948. Voilà. Quelque chose de, on pourrait dire, de politiquement très original, si ça n'était pas évidemment totalement tragique, que cette invention d'un système consistant à séparer les gens en fonction de leur couleur de peau, ce que j'ai appelé un système chromatocratique, consistant à séparer les gens en fonction de leur couleur, et à leur donner des rôles sociaux différents en fonction de cette couleur de peau.
D'où vient le mot apartheid exactement ?
C'est un mot hollandais ou un mot africain, ce qui signifie le fait de mettre à part, voilà, le fait de séparation, mais pas séparation comme processus, comme opération, séparation comme état de ce qui est séparé, voilà. Séparité, on pourrait dire, voilà. Et le fait de vivre séparé, le fait d'être à part, bon, ça veut dire exactement ça. Et ça reflète très simplement ce qu'était l'ambition de ce programme politique sur lequel le Parti National Blanc a été élu en 1948 à Pretoria, hein, c'est-à-dire ce programme consistant à défaire la société, c'est-à-dire que ce qui avait, là où la société avait engendré du métissage, là où la société avait engendré des interactions, là où la société générait des frottements, des croisements, le fait de tout simplement traverser la rue sur les mêmes passages piétons, le programme de l'apartheid visait à désimbriquer tout ça, à défaire la société, à rendre les différents groupes juxtaposés et non plus membres d'une même société, allant jusqu'à essayer de démétisser les groupes sociaux. C'est ça le programme de l'apartheid.
Empêcher toute relation, y compris amoureuse, entre
absolument
intime, entre les différentes
absolument
communautés. Ça a duré 4 décennies, en fait.
Ça a duré 4 décennies. Alors, il y a toute une série de lois qui sont emblématiques de ce presque demi-siècle d'apartheid.
48-91, en plus.
Voilà. Évidemment, l'une des premières d'entre elles étant la loi qui consiste à classer les gens. Il faut bien s'appuyer sur ça, puisque si on veut ensuite leur interdire ou les autoriser à faire. Bon, donc, il y a d'abord une loi qui définit les critères en fonction desquels on appartient à telle ou telle race.
Chose toujours très difficile.
Chose extrêmement
difficile. Jamais scientifique.
Voilà, chose extrêmement difficile, évidemment, puisque dans beaucoup de cas, et on pourrait me donner plein d'exemples, on rentre en réalité dans des critères très sociaux ou très psychologiques, beaucoup moins que factuels. Enfin, il n'y a pas de fait dans la race, tout simplement.
Si on s'arrête un instant, néanmoins, à cette division telle qu'elle a été, sinon justifiée, du moins pratiquée, Vous pouvez nous rappeler en Afrique du Sud le pourcentage des différentes populations aujourd'hui.
Aujourd'hui, selon qu'on prend en compte la population enregistrée et puis les migrants, mais les blancs c'est moins de 10%. Voilà, les blancs c'est moins de 10%.
Anglophones et parlant au contraire afrikaans.
Parlant afrikaans et anglais, mais l'afrikaans n'est pas que la langue des blancs. C'est-à-dire que l'afrikaans est aussi la langue de tous les métis, de tous les fruits de vieux métissages, et en particulier de ce groupe racial qui s'appelle les colored, qu'on pourrait traduire par les gens de couleur, si ce n'est qu'en Afrique du Sud, gens de couleur, ça ne regroupe pas les noirs. Ça regroupe tous ceux qui ne rentraient pas dans la catégorie de blanc et dans la catégorie de noir. Donc ça regroupait, c'est une catégorie un peu fourre-tout, qui regroupait tous les gens qui étaient le fruit d'anciens métissages depuis le XVIIe siècle, mais aussi les descendants d'esclaves, puisqu'il y a eu un esclavage, c'était une société esclavagiste, la colonie du Cap, mais où les esclaves n'étaient pas des Africains, où les esclaves étaient des Malgaches ou des Indonésiens. Et donc les descendants d'esclaves libérés ont été mis dans ce paquet des gens de couleur.
Formidable complexité humaine que nous allons essayer progressivement d'éclairer, François-Xavier Fauvel, au long de cette heure de conversation. Et nous reparlerons naturellement de l'apartheid comme fruit notamment de cette longue durée, de ce long terme d'une histoire. Mais auparavant, attardons-nous un instant sur ce moment qui a été un moment de bonheur et d'angoisse à la fois, qui est celui de la fin de l'apartheid et en particulier la libération de Mandela. On ne pouvait pas attendre davantage avant de donner son nom. Il quitte la prison où il a été gardé pendant 27 ans. Le 11 février 1990, au moment précisément où l'apartheid s'achève, au moment où s'engagent des négociations avec le leader blanc du gouvernement du pays.
Mandela à sa sortie de prison, mais lorsqu'il est sorti main dans la main avec Winnie en levant le poing de la victoire, le poing de la libération, il a dû vite fait faire demi-tour parce que la foule a failli vraiment l'approcher de trop près, a failli le lyncher de bonheur, de plaisir. Donc il est retourné en prison quelques minutes, le temps de sauter dans sa voiture. Là, un cortège est parti vraiment à toute vitesse avec ses motards qui empêchaient la presse de suivre la voiture de Nelson Mandela. Zinzi, sa fille, était derrière, mais aussi Walter Sisulu, tous ses amis de l'ANC qui avaient été emprisonnés avec lui. Et ça a été un long cortège tout le long de l'autoroute jusqu'au centre du Cap. Là, ça a été vraiment un grand moment parce que les gens s'arrêtaient sur le bord de la route. Blancs, métis, indiens, noirs, tout le monde était sur la route en levant le poing et en criant « Viva Mandela, viva !» C'était vraiment une foule complètement enthousiaste qui saluait le retour du leader. Et il y a eu vraiment des mouvements d'enthousiasme très forts, très touchants de la population et même des gens qui comprenaient pas trop ce qui se passait et qui apprenaient « Ah, Nelson Mandela est dehors !» Eh bien, hop, on lève le poing et on crie « Amandla » qui veut dire « Libération, victoire » en Zulu.
Amandla ! Voilà, nous entendons Nelson Mandela qui, voilà quelques minutes, au Cap, arrive devant la foule et la salue en Zoulou. C'était il y a à peine 10 minutes au Cap. Mes chers amis, chers camarades et compatriotes sud-africains, je vous remercie tous au nom de la paix. De la démocratie et de la liberté pour tous. Je me tiens ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur de vous, le peuple. Ce sont vos sacrifices héroïques qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Winnie qui est évoquée à un moment donné, c'est la femme de Mandela. Absolument. Qui avait une forte personnalité. Mais restons sur Mandela lui-même. Vous avez, dans un de vos écrits, évoqué sa personnalité en parlant d'un collage de portraits. C'est peut-être le fait de tout grand homme d'État qui a la mission d'unifier un pays travaillé par des forces centrifuges majeures. Et on voit ça dès ce discours-là.
Oui, c'est très difficile de savoir qui est Mandela. Enfin, il y a une illusion rétrospective à vouloir projeter sur ces moments-là ce que nous savons depuis de qui est Mandela. Et en réalité, c'est très difficile. Enfin, je veux dire, il y a évidemment une parole officielle qui est celle des autobiographies ou des biographies autorisées de Mandela, d'ailleurs très peu nombreuses. Bon. Il y a un portrait utile de Mandela construit par lui-même. Il y a un portrait utile de Mandela construit par l'ANC en exil. Bon. Mais qui était Mandela dans ce 11 février 90? Très difficile de savoir. Et il faut résister à cette tentation qu'énonce et que dénonce en même temps Marguerite Yourcenar dans votre générique. C'est-à-dire que cette distance, elle est absolument nécessaire. L'anachronisme du regard rétrospectif est nécessaire.
Et périlleux en même temps.
Et très périlleux. Ne projetons pas sur ces moments-là ce que nous savons du Mandela consensuel présidentiel qu'il est devenu ensuite. Nous ne savons pas, souvenons-nous, alors que ces moments de février 90 ou suspendu, nous sommes tous, et quand je dis nous, c'est nous, citoyens du monde entier, français, sud-africains blancs, sud-africains noirs, nous ne savons pas qui est cet homme qui sort de prison. Il y est depuis 3 décennies. Nous ne savons pas qui est cet homme qui sort de prison. Bon. C'est là qu'il y a un collage de portraits. Il y a le Mandela icône qui est sur les t-shirts de tous les jeunes du monde entier, qui est brandi comme une icône dans les grands concerts qui ont eu lieu de Paris à Londres. Bon. Il y a le Mandela, chef de guerre qu'il était, raison pour laquelle il s'est fait enfermer en prison. C'est lui qui a fondé la branche armée.
Défendant le terrorisme.
Défendant le terrorisme. Il y a le Mandela pacifiste, que les chancelleries occidentales érigent comme homme providentiel. Bon. Donc on a toute une série de Mandela. Il y a ce Mandela terroriste communiste qui terrorise les blancs ultra d'Afrique du Sud. Bon. Ce Mandela qui sort là, il est cet homme suspendu, on ne sait pas qui c'est.
Bon. Et du point de vue de qui nous occupe, c'est-à-dire unité ou diversité, force centripète et force centrifuge, à l'époque, est-ce qu'il apparaît d'abord comme un rassembleur ou comme incarnant un péril de nouvelles dissociations?
Je dirais que ces questions-là, elles sont exactement... Mandela les a exactement en tête lorsqu'il sort de prison. Et chacun de ces gestes, on pourrait dire, sont des gestes qui sont réfléchis depuis 30 ans.
D'ailleurs, vous publiez l'entièreté de ce discours avec 2 autres importants. Vous avez republié, François-Xavier Fauvel, ce propos de sa libération, oui, en montrant effectivement son ambivalence. Oui.
Et ce discours dont chacun des mots est pesé, cet extrait qu'on vient d'entendre, dont les premiers mots sont « I Africa Maïbouye », que prononce Nelson Mandela en Kosa Zulu.
Kosa Zulu, ça veut dire quoi?
C'est la langue commune Kosa Zulu, voilà, dans ces parties communes. C'est la langue de la lutte anti-apartheid, ça veut dire que l'Afrique nous soit rendue. C'est un message directement adressé aux combattants de lutte, fait pour ne pas être compris des autres. Et la suite, qui se dit en anglais, est extrêmement intéressante. La suite, parmi les premiers mots, il dit « My fellow South Africans », mes compatriotes sud-africains. Mais il faut se rendre compte du tour de force que représente cette seule expression-là. « My fellow South Africans », c'est une expression qui ne pouvait pas exister avant que Mandela la fabrique. C'est une expression qui nous paraît banale à nous, démocrates de pays occidentaux, de parler de nos compatriotes, etc. Bon, mais en Afrique du Sud, ça n'existe pas. On ne peut pas parler de Sud-Africains. Avant ce tour de force onomastique, on parle de blanc, on parle de noir, on parle d'africaneur, on parle de zoulou, on parle de Kossa, on parle
d'indien,
de bébélé, on
d'indien,
parle de tout ce qu'on veut.
D'indien aussi, beaucoup.
On parle d'indien, on parle de coloré, on parle de plein de choses. Mais on ne parle pas de « my fellow South Africans ». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tout le programme de l'apartheid consistait à vouloir faire loger ces gens, à les déloger d'abord, pour les faire loger ensuite dans des endroits séparés qui auraient pour vocation d'être en fait indépendants les uns des autres, articulés économiquement, parce qu'il fallait que les Noirs bossent pour les Blancs, mais désarticulés les uns des autres en termes de géographie.
Et cela veut dire aussi qu'on ne requiert pas une vengeance, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée de rester avec les Blancs dès lors que l'apartheid n'existe plus et qu'on soit tous concitoyens d'un même pays. Et il n'était pas évident que ce seraient les propos qu'il tiendrait ce jour-là, lors
mais
de sa libération.
On ne le savait pas du tout. Je me souviens, souvenons-nous aussi, c'est faire aussi de l'histoire que de se souvenir de ce qu'étaient nos états d'âme à ce moment-là. Je me souviens, moi, avoir passé, j'étais encore jeune, mais avoir passé tout mon temps devant la télé savoir ce qu'allait dire cet homme. Et je me souviens d'avoir écouté ce discours très bruyant, très difficilement audible, et avoir changé d'état d'âme. À un moment donné dans ce discours, Mandela dit « il faut poursuivre la lutte ». Il faut poursuivre la lutte armée. Et j'imagine ce qu'a été la réaction voilà, des Afrikaners en entendant ça. Et en même temps, il a ces phrases extrêmement fortes, voilà, disant « Nous sommes tous concitoyens, nous n'avons pas le choix. Voilà, donc fabriquons un avenir commun. » Bref, voilà, ce discours est un discours polyphonique. Il faut l'entendre comme ça. Il faut l'entendre comme un discours à la fois travaillé pendant 30 ans et un discours qui répare une nation qui n'en est pas une.
Alors vous évoquez, François-Xavier Fauvel, vous évoquez tout à l'heure la longue durée d'une histoire. Et je voudrais maintenant que nous nous y dirigions. Au fond, il y a trois cycles. Il y a le cycle des dernières années pour expliquer ce qu'est l'Afrique du Sud dans ses tentations de dissociation. Il y a le cycle du moyen terme qui implique la période de l'apartheid. Et puis il y a le cycle très long qui est celui de la colonisation depuis que les Européens ont pour la première fois rencontré les Africains, et c'est là que je voudrais vous conduire à présent.
L'Afrique du Sud, là aussi d'ailleurs c'est un terme récent, l'Afrique du Sud ça n'existe que depuis qu'il y a des gens qui veulent bien s'appeler des Sud-Africains. Bon.
L'Afrique australe serait un terme plus...
Appelons ça l'Afrique australe, c'est une entité, ou appelons ça le Sud de l'Afrique, puisque c'est encore comme ça que ça s'appelait encore au 19e siècle. Hein, au Sud de l'Afrique, il y a différentes choses. Bon.
Alors quand sont arrivés les premiers Européens dans cet espace ?
Toute fin du 15e siècle, c'est le moment où les Portugais contournent le continent. Bon.
Vasco de Gama, etc.
Voilà, exactement, Bartolomeo Dias et Vasco de Gama. On est vraiment dans la dernière décennie du 15e siècle, moment très important. C'est le moment où, en quelque sorte, l'Occident chrétien fait la jonction avec l'Inde, qui était son horizon onirique depuis très très longtemps, pour parler comme Jacques Le Goff. Et dans cette jonction, dans ce court-circuit qui rattache en quelque sorte directement l'Europe et l'Inde, il y a cette entreprise formidable qui dure tout le 15e siècle, qui est d'essayer de contourner cet obstacle majeur qu'est l'Afrique. Et qui explique pourquoi on ne regarde pas l'Afrique. Qui explique pourquoi on détourne, tout en passant son temps à contourner l'Afrique, on détourne le regard de l'Afrique. Le regard est porté directement sur l'Inde.
Éventuellement, créer un lieu où on puisse se ravitailler.
Voilà. Et effectivement, les Hollandais, milieu du 17e siècle, installent ce qui est d'abord un petit comptoir, un fort avec un jardin, pour cultiver des légumes et puis en fait approvisionner les navires de passage en viande, en légumes, etc. et en eau fraîche. Bon. Il faut se rendre compte que le Cap de Bonne-Espérance, ce bout de l'Afrique, c'est la halte qui est en plein milieu de ce qui est la route commerciale la plus importante de l'époque. Enfin, je veux dire, entre le 15e et le 19e siècle, avant le creusement du canal de Suez, c'est la plus grosse route commerciale. Et en plein milieu, on a cette station-service voilà, qui est le Cap de Bonne-Espérance.
Donc aucun souci de peuplement à l'origine. Assurer seulement ce que ce lieu Absolument. Est sûr et qu'on peut y trouver le moyen de faire escale.
Absolument. Et assez rapidement, donc là on est en 1652, hein, quand les Hollandais, quand la compagnie néerlandaise des Indes orientales crée ce petit fort, ce fortin en bois d'abord, en pierre ensuite, avec un jardin, etc. Ce sont d'abord des employés de la compagnie qui cultivent ça. Et puis très rapidement, la compagnie, on peut appeler ça sans anachronisme, multinationale. C'est une multinationale, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, décide de confier à l'entrepreneuriat privé la production de viande, de légumes, etc.
Bon. C'est déjà le public privé.
C'est exactement ça. Voilà. Et à ce moment-là, en quelque sorte, donne des terres à des colons qui arrivent d'Europe du Nord. Bon, et c'est le début d'un processus irréversible de colonisation très, très, très rapide dans l'intérieur.
Et c'est pour cela que la langue hollandaise a encore la place que nous savons, ce qu'on appelle afrikaans, oui. Est-ce que l'afrikaans est un peu différent du néerlandais désormais?
Oui, c'est une langue créole qui s'appuie sur le bas néerlandais, avec beaucoup de simplifications grammaticales et puis des traits de vocabulaire et de grammaire qui sont empruntés aux langues qui ont été rencontrées là, donc les langues Khoikhoi en particulier, et toute une série de mots bantous, des mots malgaches, des mots indonésiens. C'était la langue des esclaves. Le portugais était aussi la langue des esclaves. Ah, donc il y a toute une série d'apports dans cette langue-là qui est un créole du néerlandais. Ouais.
Les Huguenots de France trouvent là, parmi d'autres lieux d'accueil, une terre où ils peuvent se retrouver. Nous avons déniché cette interview d'une africanaire de Johannesburg, dont les ancêtres étaient huguenots et qui continue de parler français. C'est un extrait de l'émission « 2 heures pour comprendre ». Je crois que ça va nous aider effectivement à comprendre. Sur France Culture, le 18 novembre 1976.
Mes ancêtres sont arrivés peu après la révocation de l'édit de Nantes. Je ne sais pas exactement à quelle époque. Je sais qu'ils venaient de Montpellier, que c'était des vignerons qui s'appelaient Théron, la famille Théron. Ces gens-là se sont donc établis dans le pays. et petit à petit ont quitté leur province d'origine, où certains sont restés. D'ailleurs, vous pouvez trouver beaucoup de Huguenots dans la province du Cap, dans un endroit qui s'appelle Franschhoek, par exemple, où nous avons érigé un monument à la mémoire des Huguenots français. Et ce monument porte une plaque en trois langues, en anglais, en afrikaans et en français, pour dire merci à nos ancêtres qui ont aidé à construire ce pays. Donc, mes ancêtres sont restés pendant un certain temps dans la province du Cap, où ils devaient être fermiers, et par la suite se sont éparpillés, et mon grand-père a quitté la province du Cap et la région de Stellenbosch. Il venait en fait de Worcester, Wolseley, Cyrus, cette région-là, et il est parti au sud-ouest africain, avec à une époque où on parlait des First Land ou Dorsland Trekkers, c'est-à-dire les fermiers de la terre de soif, des fermiers qui se sont installés au sud-ouest africain. Ceux-là ont quitté la vigne tout à fait et sont devenus fermiers, en général éleveurs d'astrakhan.
Les trekkers, le grand trek, qu'est-ce que c'est ?
Le grand trek, c'est ce moment dans les années 1820 lorsque les Anglais viennent de prendre la colonie du Cap et se retrouvent avec des sujets qui sont des colons d'avant, qui sont les colons descendants, qui sont les africaneurs, qui sont ceux qui s'appellent eux-mêmes les bourgs, les paysans.
Bon. Bourgs, ça s'écrit B-O-E-R-S, oui.
Exactement, voilà. Et on disait Boer au moment de la, dans toute l'Europe, au moment de la guerre des bourgs. Voilà, bon, mais ça se dit bourg. Bon. Et les Anglais abolissent la traite des esclaves, puis l'esclavage. Et évidemment, ça déçoit beaucoup leurs sujets africaneurs qui entament un trek, c'est-à-dire qu'une avancée dans l'intérieur pour aller créer des républiques indépendante, autonome, dans l'intérieur de l'Afrique. C'est ce grand mouvement, voilà, d'expansion africaneur vers l'intérieur.
Donc c'est le moment de parler des relations qui ont pu s'établir, brutales en général, avec les populations originaires de ces régions.
Absolument, puisqu'en particulier on a dans l'est de l'Afrique du Sud ce grand royaume Zoulou qui, sous l'impulsion de Chaka, voilà, ce grand homme d'État africain, construit à ce moment-là un très vaste royaume. Et il y a cette conflagration, voilà, entre le royaume africain de Chaka et les trekkers bourgs qui vont fonder le Transvaal, l'État libre d'Orange, la République de Natalia. Bon. Toutes ces formations politiques entrant en conflagration les unes avec les autres et formant progressivement ce qui est le puzzle de l'Afrique australe, voilà, qui sera ensuite unifié dans l'Afrique du Sud.
Vous vous êtes mis en quête, notamment dans ce livre récent, le dernier, « À la recherche du sauvage idéal », en quête de ce que l'on peut savoir encore de ces populations antérieure, le Khoisan, je ne sais pas si je prononce bien, et Khoikhoi, plus les Sam, enfin expliquez-nous ça.
Ces Khoisan, ce sont toutes ces populations qui parlent des langues avec des clics. Bon, c'est une catégorie simplement linguistique qui sert à désigner les éleveurs et puis les chasseurs-cueilleurs, les gens qui vivent encore aujourd'hui dans le Kalahari, en Namibie, au Botswana, et qui parlent des langues avec des clics.
Bon. Ça veut dire quoi, parler avec des clics ?
C'est ces petits sons qui sont Tidake, Han, Kori, Kwe, qui sont des sons très particuliers, tout à fait propres à ces langues-là. Je viens de dire là, en Namad Namibie, je suis un homme blanc. Voilà. Et ces populations-là ont disparu pour l'essentiel d'Afrique australe, soit repoussées dans les endroits les plus arides, les plus impropres à l'habitat, soit massacrées pendant la période coloniale, soit absorbées par des populations postérieures, par intermariage, etc.
Et
etc.
Puis comme aux États-Unis, il y a le ravage des épidémies.
Absolument.
Et là, c'est la variole.
Et là, c'est la variole de 1713 qui décide. Enfin, qui fait plus que décimer, puisqu'en réalité, ceux qui survivent sont de l'ordre de 1, 2, 3%.
Oui, décimer, ça veut dire 1 sur 10, malgré
voilà,
ce qu'on
là, c'est exactement tout le compte. Voilà, là, c'est qui tue, en réalité, voilà, qui tue près de, je sais pas, 99% des Khoisan du Cap et qui, en quelque sorte, nettoie le paysage et laisse place dans le paysage à la colonisation des Blancs.
Nettoyer, c'est un mot affreux.
C'est un mot absolument affreux, mais c'est comme ça que c'est comme ça que c'est dit, c'est comme ça que c'est pensé, voilà, par le colonisateur, voilà, et éprouvé par les victimes. Et c'est bien à la recherche de cette histoire-là que je remonte dans ce livre, essayant d'aller retrouver ces sociétés qui ont été effacées de notre monde au XVIIIe siècle.
Les Hottentots,
c'est eux.
Ce sont eux, n'est-ce pas? Voilà. Et alors, quand on parle de la fameuse Vénus Hottentote, je crois qu'il faut que nous y attardions un instant, François-Xavier, parce que, au-delà d'elle-même, elle est très, très symbolique des relations avec l'Occident.
C'est cette femme qui s'appelait Sarah Bartman, voilà, mais qui venait de l'Est, de la colonie du Cap, et qui, au tout début du 19e siècle, a été emmenée en Angleterre d'abord, en France ensuite, exhibée sur scène, sur des petites scènes sordides de café-théâtre, pour y montrer sa physionomie, en particulier ses fesses. Bon. Et avec cette curiosité forcément malsaine voilà, du public, intéressée pas seulement par ses grosses fesses, qui la faisait désigner sous le nom de Vénus Stéatopige, c'est-à-dire aux fesses grasses, pour faire un parallèle
avec Vénus Callipyge.
Avec les Vénus Callipyge,
voilà. Aux belles fesses de l'Antiquité grecque.
Ce qui intriguait à ce moment-là, tout le monde, enfin, ce qui intriguait le public, ce qui intriguait les savants, etc., c'était de savoir si ces fesses comportaient un os supplémentaire ou pas. Voilà. Parce que là, il y avait le mystère qui permettrait de décider une fois pour toutes et de façon universelle s'il existait une seule espèce humaine ou s'il en existait plusieurs. Voilà. Donc cette question-là, la simple question de la physionomie, de la silhouette, pourrait-on dire, d'une femme unique, singulière, du début du 19e siècle, est en quelque sorte la solution sur laquelle tout le monde se met d'accord. Les polygénistes, ceux qui veulent absolument croire qu'il y a différentes races humaines, les monogénistes, ceux qui veulent à toute force penser, avec raison, qu'il n'y en a qu'une.
Et ça peut justifier naturellement toutes les oppressions, justifier toutes les affirmations des différences et de la colonisation. Donc c'est essentiel comme enjeu.
C'est un enjeu absolument essentiel et on le voit, cet enjeu traverse toute l'histoire de la science anthropologique du 19e siècle. Il y a là, voilà, il y a un enjeu qui en quelque sorte se condense dans la trajectoire de cette femme, dans la destinée tragique de cette femme.
Une trajectoire d'ailleurs qui garde une importance symbolique jusque tout récemment.
Alors là, on est en pleine concordance des temps précisément, puisque très récemment, en effet, lorsque la France a restitué, pas de son propre chef, mais la France a restitué les restes de Sarah Bartman, il y a eu toute une série voilà, de manifestations, ce qu'on pourrait appeler identitaires, voilà, en Afrique du Sud, visant à s'affirmer comme descendante de Sarah Bartman, visant à réexprimer une diversité culturelle et sociale disparue d'Afrique du Sud.
Cérémonie effectivement très 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 marquante, très solennelle, le retour de ces restes de la Vénus Hottentote. Comment est-ce que les Blancs à ce moment-là ont réagi?
Alors, chose intéressante parce que là aussi, concordance avec l'extrait qu'on a entendu avant de cette dame africaneur qui dans les années 70 insiste sur la trajectoire politique de ce qu'elle appelle mes ancêtres huguenots. Bon, chose très intéressante, au moment de la restitution des restes de Sarah Bartman par la France à l'Afrique du Sud, ce sont non seulement des voix indigènes qu'on a entendu, c'est-à-dire des gens disant leur fierté de pouvoir enfin affirmer leur existence autre part que dans les seules catégories raciales de l'apartheid. Mais on a aussi entendu des Blancs changer en quelque sorte leurs ancêtres et arrêter de simplement rappeler, glorifier le parcours des Huguenots du XVIIe siècle, mais rappeler aussi que dans leur ascendance généalogique, il y avait aussi des Khoïkhoï, il y avait aussi des descendants d'esclaves.
À cause des métissages.
À cause des métissages survenus dans la colonie du Cap, dans cet intérieur du pays, très très mal contrôlé par le fortin du Cap, toute une série de métissages. Et on a vu des grandes familles africaneurs, à ce moment-là, se targuaient d'avoir parmi leurs ancêtres, on pourrait dire à parts égales avec l'ancêtre fondateur africaneur, avoir aussi telle femme, Khoïkhoï, etc. C'est très intéressant d'entendre dans ces concordances entre les années 70 et les années 2000, d'entendre ces discordances généalogiques et la façon dont des mêmes familles peuvent affirmer à certains moments donnés, peuvent choisir à certains moments dans leur généalogie des ancêtres différemment utiles au présent.
Mais cela peut être un signe d'aspiration à une unification, puisque nous consacrons cette émission ce matin au long espoir d'une unité et aux difficultés d'une unité en Afrique du Sud. C'est aussi un signe positif du point de vue qui nous est
Bien sûr, mais je n'ironise pas du tout sur ces bricolages identitaires. C'est d'ailleurs, je prends un soin de tout particulier dans mon livre à mettre à l'écart cette tentation ironique que les chercheurs et chercheuses peuvent avoir à l'égard de ces bricolages identitaires ou bricolages généalogiques. Je crois tout à fait sincèrement qu'il est nécessaire de bricoler dans sa généalogie et que ça exprime en effet un désir d'adaptation au présent.
Alors il faut que nous attardions toujours dans le même esprit de cette émission à un épisode qui a été de grande importance, au-delà même de l'Afrique du Sud, qui a beaucoup agité l'ensemble des diplomaties européennes. C'est la guerre des bourgs qui vient... Vous disiez que c'était une des rares colonies où on voyait deux colonisateurs à la fois, qui se sont succédés dans le temps, mais qui n'ont pas cessé de s'affronter. Les Hollandais d'un côté, les Britanniques de l'autre. Tout ça se concrétise de façon dramatique dans la guerre des bourgs de 1899 à 1902, qui est une guerre de blancs entre eux, et qui doit être étudiée aussi du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire aux racines de ces forces centripètes de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui.
Cette guerre, en effet, 1899-1902, a eu un formidable écho en Europe, avec des célébrations en France, des forces républicaines bourgs qui vont lutter, qui partent lutter vaillamment contre l'oppresseur anglais.
Oui, parce qu'on est peu de temps après Fashoda.
On n'est pas très longtemps, exactement.
On est avant l'entente cordiale, en ce moment d'extrême de spasme d'hostilité à l'Angleterre qui
absolument,
va disparaître
voilà.
Ensuite.
Donc il y a une espèce de connivence sympathique dans la France populaire, patriote et républicaine à l'égard de ceux qu'on appelle les Boers et qui nous sont très sympathiques. Bon, à l'époque, bon.
Encore une fois, on dit Boers et non pas Bourg à l'époque.
Voilà. Et cette guerre, il faut bien voir ce que c'est. C'est la guerre que se livrent deux camps. Un camp africaneur, républicain, contre un camp britannique impérialiste. Voilà. Pourquoi ? Mais pour la possession des terres, pour la possession des richesses et pour la dépossession des Africains de ces mêmes régions.
Les Africains sont des observateurs ou ils choisissent un camp ?
Alors, les Africains sont enrôlés. Certains clans sont enrôlés comme auxiliaires derrière telle ou telle armée, africaneur dans un cas ou britannique de l'autre. Les Britanniques font également venir des troupes auxiliaires depuis leur empire colonial. C'est une véritable guerre internationale, en réalité. Hein. Bon, ça se voit bien, c'est ce caractère très international, j'hésite à dire mondial parce que c'est pas le cas, mais de ce caractère très international de la guerre anglo-bourg se voit dans les mémoriaux qui parsèment toute l'Afrique du Sud. Bon, il y a des champs de bataille sur lesquels toutes les parties en présence sont venues mettre leurs monuments.
Bon. Il faut dire qu'une jeunesse, par exemple, britannique, vient volontiers se battre. Winston Churchill combat dans la guerre des bourgs.
Absolument, et absolument, tout à fait. Et Rudyard Kipling est sur le terrain aussi comme journaliste. Et puis du côté africaneur, il y a des espèces de brigades internationales qui partent de Suède, d'Allemagne, de France, pour aller des États-Unis. Pour aller se battre du côté de Villebois-Mareuil, du côté de tel ou tel héros africaneur.
Donc guerre très sanglante qui aboutit à...
Qui aboutit à une victoire britannique et à l'intégration de toutes les parties en présence dans un seul paquet sous suzeraineté britannique. Bon. Donc le paquet c'est quoi ? C'est l'immense colonie du Cap qui a déjà été annexée par les Britanniques. C'est... La République de Natalia, la République de l'État libre d'Orange, la République du Transvaal, tout ça aggloméré dans une seule entité qui est un Dominion, qui devient, quelques années après, en 1910, l'Union sud-africaine.
Bon. Très diverse donc.
Très diverse, mais qui en fait, de façon assez intéressante, procède d'abord comme une espèce d'union douanière, et puis etc. Bon, avec des parlements provinciaux qui respectent en quelque sorte les identités, mais attention, on parle d'identité africaneur ou britannique, on parle pas des autres. Bon, les autres sont laminés. Et chose très intéressante, il y a là en quelque sorte une réconciliation, c'est-à-dire que la guerre des bourgs, c'est une guerre de blancs, mais la réconciliation est une réconciliation de blancs. Et cette réconciliation de blancs qui vient en quelque sorte... sanctionner, ce processus de double colonisation qui a pris place dans la longue durée.
Donc il n'y a pas de précédent ou d'équivalent ailleurs, je crois, sur la planète dans l'histoire de la colonisation.
Il y a très peu de choses équivalentes. On pourrait éventuellement comparer, ce serait intéressant à faire, avec la situation qui ressort de la guerre civile américaine. Voilà un nord qui l'emporte sur un sud et toute la reconstruction derrière se fait aux dépens des noirs. Bon. Et de la même façon là, les deux ennemis blancs se réconcilie, et se réconcilie comment ? En décidant d'institutionnaliser la ségrégation et de mettre les Noirs au travail à leur profit. Et ça, c'est le principe même de la réconciliation de 1902 et de l'Union sud-africaine de 1910.
Et qui éclaire toute l'histoire de l'Afrique du Sud au XXe siècle et qui explique aussi la marche progressive vers l'apartheid qui suit la Seconde Guerre
absolument.
Mondiale. Et nous allons trouver l'apartheid que nous avions déjà évoqué en commençant, forcément. Écoutez cette interview de Barney Gagané, qui est le porte-parole de l'opposition clandestine en Afrique du Sud, à l'époque des émeutes de Soweto. Soweto, c'est un township de Johannesburg.
Absolument.
Sur France Culture, le 18 novembre 1976, voici comment il s'exprime.
Every African home, any black home, is a political school.
Chaque foyer africain, n'importe quel foyer noir, est une école politique. Quand le père ou la mère noire rentre du travail, que le mari raconte à sa femme comment il a été maltraité, peut-être parce qu'il a oublié son passe dans le bureau en face. Quand il raconte à sa femme qu'il a été gardé en prison pour la nuit parce qu'il n'avait pas ce document en sa possession, les enfants écoutent et ingurgitent tout cela. Quand on lui dit que parce que le père a été sans emploi pendant 3 semaines de suite et a été expulsé de la ville parce qu'il est un work shy, un sans-emploi, comme le dit la loi, l'enfant est à l'école, il entend tout cela. Si bien que tous ces griefs que les enfants ont absorbés depuis les conversations de leurs parents ont été absorbés jusqu'à ce que ce 16 juin, ils ont explosé. Le motif immédiat de cette explosion étant l'utilisation de la langue afrikaans comme moyen d'instruction pour tous les sujets. La revendication des enfants était légitime. Nul ne peut le nier. Ce n'était pas contre la langue afrikaans en elle-même, mais contre l'utilisation de l'afrikaans comme moyen d'instruction.
Je pense, François-Xavier Fauvel, que ce texte mérite d'être explicité. On y voit notamment, comme si souvent dans l'histoire de la défense de l'autodétermination des peuples, l'importance du langage.
Oui, absolument. Alors, à quoi fait-il allusion? Il fait allusion au fait... D'abord, il faut dire que là, on est en novembre 76, quelques mois plus tôt, 4 mois plus tôt, il y a eu les odieux massacres de Soweto. C'est-à-dire que plusieurs centaines de morts dans Soweto, ce township qui est à 40 km du Cap. Un township, c'est quoi? Un township, c'est une espèce de cité de petites bicoques juxtaposées les unes aux autres, sans aucune infrastructure, sans aucun commerce, rien. C'est-à-dire que c'est l'endroit, c'est la cité dortoir où les Noirs ouvriers qui doivent travailler pour les industries blanches, qui doivent travailler comme domestiques pour les familles blanches de Johannesburg, sont obligés de résider. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de résider.
On est dans la ligne exacte des décisions prises en 1948.
Absolument.
Par le Parti national qui avait déterminé un certain nombre de lois qui organisaient ceci.
Absolument.
Sous le regard assez indigné de la plupart des démocraties occidentales, il faut le dire, impuissant.
Absolument, il y avait cette obligation de résidence. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une ville, les Noirs, mais pas seulement les Noirs, les Indiens aussi, étaient obligés de résider dans des townships, dans des endroits
ans.
Qui étaient à l'écart. Alors quand c'est un petit village blanc de 600 habitants, le township, il n'est pas forcément très loin, il est à 500 mètres, mais il est quand même à 500 mètres.
Il y a 30 ans que ça dure.
Oui. Et quand c'est une énorme ville comme Johannesburg, le township, il est à 40 km. Bon. Et là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est juste une cité dortoir très très éloignée.
Et pourquoi est-ce que c'est l'afrikaans et pas l'anglais qui apparaît comme la langue de domination?
Parce que le Parti national s'est construit autour de cette idée, cette identité afrikaner, avec cette langue qui est en quelque sorte le véhicule symbolique de la minorité blanche. Mais n'allons pas croire que seuls les afrikaners votent pour le Parti national et que seuls les afrikaners votent pour la prolongation du régime d'apartheid. Les blancs en général votent, c'est-à-dire que même d'origine anglaise, votent pour l'apartheid, choisissent l'apartheid, prolongent l'apartheid.
Ils ne cherchent pas à utiliser l'anglais comme forme de domination.
Non, ils ne cherchent pas à utiliser l'anglais comme forme de domination. C'est véritablement l'afrikaans qu'à un moment donné le régime, qui d'une fois de plus est un régime totalitaire. Enfin, faut quand même le dire. Bon, et on est à ce moment-là sous la présidence de John Forster, qui est quand même un odieux dictateur. Bon,
d'origine hollandaise, sa famille.
Absolument. Voilà. Et qui cherche à imposer l'afrikaans comme langue d'enseignement dans les townships. Bon.
L'importance de ce mot de passe, je voudrais que vous l'explicitiez.
Alors là, c'est l'autre aspect. Donc, le premier aspect était linguistique. Le deuxième aspect qui vraiment cristallise la révolte, mais seulement la cristallise, parce que fondamentalement, c'est, je veux dire, ce qui est odieux, c'est pas spécialement La question, comme il le dit très bien dans son interview à l'instant, c'est pas spécialement la langue, ça va... Bon. Ce passeport, c'est quoi? C'est un passeport intérieur. C'est-à-dire que le régime d'apartheid a imposé toute une série de mesures administratives extrêmement tatillonnes, visant à vérifier que les hommes et les femmes habitaient bien dans les endroits où ils devaient habiter en fonction de leur étiquette raciale. Par conséquent, il faut forcément un document dans lequel est écrite votre étiquette raciale. Tout le monde est donc obligé de se trimballer avec un passeport.
Même si c'est très difficile à déterminer.
C'est très difficile à déterminer, mais néanmoins, une fois que c'est écrit, c'est le document de référence. Bon. Et ce document de référence, il vous est demandé 20 fois par jour. Tout simplement parce que vous habitez à Soweto et vous avez à faire ces 40 km avec les moyens de transport rudimentaires qui sont à votre disposition. Mais si vous n'avez pas le droit de les faire, ces 40 km, il faut bien que la police du régime totalitaire d'apartheid vous contrôle. Donc, ces contrôles sont partout. Ces contrôles sont à tout moment. Avez-vous le droit d'être sur le trottoir de gauche ou pas? Pour ça, on vérifie votre passe. Avez-vous le droit de rentrer par la porte de droite au bureau de poste ou pas? On vérifie votre passe. Avez-vous le droit d'être sur la route à cette heure-là? Votre passe, s'il vous plaît. C'est comme ça que telle ou telle personne, que beaucoup d'opposants sont arrêtés, envoyés en prison et parfois tués. Voilà, ça comme juste à la faveur d'un contrôle de passe.
Donc l'unité de l'Afrique du Sud à cette période-là ne tient que par la brutalité formidable du système que vous dites à juste titre totalitaire.
Brutalité formidable, système totalitaire, et l'unité, elle est quoi là-dedans? Elle n'existe pas en réalité. L'unité, elle ne repose que sur la nécessité qu'a la toute petite minorité blanche d'employer les Noirs comme main-d'œuvre. Et comme main-d'œuvre à qui n'est reconnu aucun droit.
Comme domestique aussi.
Comme domestique et comme main-d'œuvre dans les mines, principalement. Bon. Et donc, c'est au titre de cette utilité comme main-d'œuvre que vous avez le droit d'habiter à 40 km pour venir travailler chez moi. Bon. Mais si vous n'êtes pas utile, si vous êtes improductif, vous devez aller habiter ailleurs, dans ce qu'on appelle un bantoustan, dans une réserve, dans la montagne ou dans la campagne la plus lointaine. C'est là que vous êtes obligé, si vous n'êtes pas productif, si vous n'êtes pas utile à l'économie.
Bantoustan, d'où vient le mot?
Bantoustan, c'est un pastiche qui est formé sur les mots qui étaient utilisés dans l'Inde de l'Empire britannique, avec stan, qui est là pour désigner un royaume, un petit royaume bantou. Bantous, ce sont les populations noires d'Afrique du Sud. Donc des Bantoustans, il y en a toute une série. Il y a le Bantoustan Zoulou, qui est donc le Zoululand. Il y a le Bantoustan Ndébélé, il y a le Bantoustan Kossa, il y a le Bantoustan Tswana, qui s'appelle le Bopouta Tswana. Bon. Et ces petites entités, le régime sud-africain va même aller jusqu'à leur donner une espèce d'indépendance totalement factice, avec des espèces de généraux présidents à leur tête, ou des rois, de temps en temps, comme dans le cas du Zoululand, pour faire croire à la communauté internationale que le régime blanc est très généreux avec ses voisins noirs, alors qu'en fait, il ne s'agit que d'organiser, en réalité, non pas une société intégrée et inclusive, mais une espèce de juxtaposition politique qui sert juste à faire tourner l'économie de l'Afrique du Sud blanche.
Vous parliez de totalitarisme, ça se traduit en particulier par des moments symbolique, c'est-à-dire la mise à mort d'un certain nombre de leaders. Je pense à l'importance de l'assassinat par la police de Steve Biko.
Absolument. En 77, Steve Biko est arrêté en pleine nuit sur une route.
C'est un leader...
Absolument, extrêmement important, qui n'appartenait pas au Congrès national africain, qui représentait un autre...
Communiste.
Alors, communiste, mais surtout panafricaniste, et également visant à une émancipation intellectuelle à l'égard des Blancs, beaucoup plus radicale d'une certaine façon, dans sa façon de réclamer une émancipation de la tutelle intellectuelle blanche d'Afrique du Sud. Et effectivement, il est arrêté en pleine nuit, et on lui demande son passe. Il fournit son passe, et la police est toute contente de tomber sur lui. Et on sait qu'il va être frappé à mort dans les jours qui suivent. Sa mort, la nouvelle de sa mort ne filtrera que des mois plus tard, mais on sait qu'il est tué en prison sous les coups des policiers.
Vous parliez de l'Inde tout à l'heure, d'un point de vue dérisoire, les Bantoustans. Le rôle de Gandhi a-t-il compté dans cette histoire de l'unité ou de la désunion de l'Afrique du Sud? Et pendant de longues années, Gandhi a vécu en Afrique du Sud. Est-ce que sa personnalité compte encore? Nous avons des livres comme celui d'Éric Vincent et Sophie Viguier-Vincent sur Mandela et Gandhi.
Ouais,
rapprochement possible. L'influence de Gandhi sur Mandela ou pas?
Absolument. Souvenons-nous que Gandhi pour parler en termes anachroniques, est d'abord sud-africain. C'est-à-dire que Gandhi appartient à la communauté indienne.
Qui est importante.
Très importante, qui a été importée à la fin du 19e siècle par les autorités britanniques, principalement comme indentured workers, c'est-à-dire comme travailleurs sous contrat, voilà, pour venir travailler dans les plantations du Natal. Bon. Et donc on fait venir des Indiens par dizaines de milliers qui constitueront en quelque sorte le foyer de départ de la population indienne d'Afrique du Sud qui aujourd'hui est pleinement sud-africaine. Bon. Néanmoins, voilà, donc Gandhi fait partie de cette population-là et c'est par choix qu'ensuite lui repart en Inde. Mais il a eu le temps en Afrique du Sud de développer sa philosophie de l'action pacifiste.
Et il a compté du point de vue qui nous occupe ce matin.
Il a compté. Il a fondé en Afrique du Sud le Congrès indien. Bon, et c'est à l'exemple de ce congrès-là que le Congrès national africain ou d'autres partis politiques se sont fondés eux aussi sur ce modèle de l'action pacifiste contre l'oppresseur. Bon. Et un personnage comme Albert Luthuli, voilà, qui a été président de l'ANC dans les années 50 et 60, s'inspirait directement de la philosophie de Gandhi. Voilà.
Il était celui, nous l'évoquions tout à l'heure, qui a eu le prix Nobel de la paix. C'est dans une logique impeccable.
Absolument, tout à fait. Voilà, donc il y a véritablement cette philosophie qui est dominante en Afrique du Sud jusque dans les années 50 et au tout début des années 60. Et d'ailleurs, voilà, vous mentionnez à l'instant le prix Nobel de Albert Luthuli en 61. C'est intéressant de constater que c'était précisément à ce moment-là que, en fait, l'essentiel des cadres de l'ANC, à part Luthuli, fait le constat que la lutte pacifiste ne marche pas. Voilà. Et la même année où Albert Luthuli reçoit le prix Nobel, Mandela et quelques autres fondent le Umkhonto weSizwe, qui est la lance armée du peuple, voilà, le fer armé du peuple. Voilà.
C'est la défaite posthume de Gandhi, en somme.
Exactement, voilà. Et qui est en fait la branche armée de l'ANC.
C'est néanmoins un état d'esprit que l'on peut parfois dire reparaître quand on considère, nous allons terminer notre conversation sur ce point, François-Xavier Fauvel, quand on considère la manière dont le pays, après la restauration de la démocratie, a traité la mémoire, le souvenir des déchirements intestins antérieurs. Je pense à la fameuse Commission Vérité et Réconciliation, sous les auspices de l'évêque anglican Desmond Tutu, qui a affirmé que on pouvait passer d'une période à l'autre sans punition et sans vengeance, à condition qu'on expliquât ce qui s'était passé. Un prêtre important à l'époque, qui était ensuite évêque de Cayenne, le père Emmanuel Lafont, qui était un personnage majeur de l'opposition à l'apartheid, s'en explique de façon, je crois, très claire dans Nuit magnétique sur France Culture, le 21 octobre 1997.
La commission est née d'un compromis parce que les Blancs avaient extrêmement peur de lâcher le pouvoir politique en se disant « Mais le jour où nous n'aurons plus le pouvoir, est-ce que les Noirs ne vont pas se venger, nous traîner devant leurs tribunaux ? Et si c'est ça, nous n'aurons qu'une chose à faire, c'est à faire nos valises. » Et je pense que le président Mandela était conscient de cette peur des Blancs. Et dès le jour de sa libération, il a dit « Il faut que nous fassions attention à écouter cette peur des Blancs ». En même temps, la majorité noire, tous ceux qui avaient été victimes des multiples exactions et tortures, de disparitions, tous ceux qui ont perdu des enfants ou des parents dans la lutte effroyable, tout de même, qui a sévi pendant des dizaines d'années, voulaient enfin savoir ce qui s'était passé, qui avait pu donner des ordres, qui avait torturé leur père, qui avait fait disparaître leur enfant. Et donc la commission est née d'un compromis entre ces deux besoins. Le besoin de savoir la vérité et la nécessité de ne pas traîner en cour de justice des gens parce que ça aurait probablement mis à mal le désir de réconciliation et d'unité du pays. Donc en fait, on a dit aux victimes, à toutes les victimes, nous allons tout faire pour connaître la vérité, mais s'il vous plaît, ne demandez pas que justice soit faite. Ça risque d'être trop dangereux pour la construction ou la reconstruction du pays. Donc si on comprend cela, on comprend à la fois le désir politique du pouvoir, et qui est de préserver l'avenir, et en même temps la frustration et quelquefois la colère d'un bon nombre de gens qui ont été victimes et qui ne se satisfont pas au fond d'une certaine manière qu'on leur vole leur droit à la justice. Et c'est entre ces deux choses-là que la commission Vérité et Réconciliation essaye de se frayer un chemin.
Il y a bien sûr toute une comparaison à faire avec beaucoup d'autres pays qui ont vécu des périodes de totalitarisme, de dictature qui en sont sortis et qui ont géré la mémoire immédiate ou ultérieure de façon très diverse. On pourrait comparer avec le Rwanda, on pourrait comparer avec les pays dictatoriaux d'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, ou aussi avec l'Espagne et le Portugal. Le choix dans certains cas de purger le drame en condamnant très rudement les dirigeants ou même les serviteurs de la barbarie, et dans d'autres cas, comme en Espagne par exemple, et comme en Afrique du Sud, la décision d'expliquer, de dire, et puis de passer outre au nom de l'unité du pays. C'était déjà le choix d'ailleurs des Athéniens en 403 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils ont repris le pouvoir à Athènes après la domination des 30, qui était un gouvernement de autoritaire. Le cas africain à cet égard, quelle définition donneriez-vous ?
Alors, d'abord, vous avez tout à fait raison de parler de purge, c'est-à-dire que c'est exactement de ça qu'on parle. Il y a quelque chose là dans le modèle, dans la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre religieux et de l'ordre médical, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça consiste à purger le mal pour le soigner.
Le choix d'un évêque anglican, Monseigneur Tutu, est significatif.
Absolument, et puis ce choix consistant à dire... Nous n'obtiendrons pas justice pour le mal qui a été fait, parce que prétendre obtenir justice empêcherait de connaître la vérité sur ce qui a été fait. Donc le choix qui est fait, c'est celui de dire le pardon est accordé à ceux qui diront toute la vérité. Donc il y a cette espèce d'exigence morale, religieuse, d'une confession totale pour obtenir le pardon de la nation. Donc on peut comprendre que ça génère des frustrations, mais c'était la condition très bien comprise par Nelson Mandela et évidemment par l'archevêque anglican Desmond Tutu, d'une vérité totale, d'une réappropriation totale aussi du passé par le présent.
Quitte à ce que ressurgisse ensuite dans les générations ultérieures un appel différent à purger autrement, puisqu'aujourd'hui après tout on nous dit que plus de la moitié des Africains du Sud ont moins de 25 ans.
Oui. Alors, tout à fait. Alors, il y a cette frustration aujourd'hui qui se fait entendre. Voilà, mais néanmoins, pour finir sur la commission Vérité et Réconciliation, les séances étaient publiques et elles sont accessibles sur Internet.
Est-ce que cela servira à l'unité de l'Afrique du Sud sur laquelle nous nous sommes interrogés dans la moyenne durée? L'affaire sera à suivre. Je ne vous engage pas à prédire, encore que...
Après dire non, à dire néanmoins qu'il y a quelque chose d'exemplaire dans la situation de l'Afrique du Sud. Voilà. Et que penser l'Afrique du Sud aujourd'hui, quand on est historien, penser la guerre des bourgs, penser l'apartheid, penser la singularité de cette histoire-là, penser la singularité de la sortie de l'apartheid et en quelque sorte de l'invention de la démocratie dans les années 90, il y a quelque chose de très singulier et de très utile pour nous aujourd'hui.
Ce sont ces réflexions que l'on retrouvera plus en détail dans votre ouvrage qui s'appelle « L'histoire de l'Afrique du Sud », dont la première édition était de 2006, François-Xavier Fauvel, et dont nous pouvons lire une réédition dans la collection de poche Point, toujours au seuil, en 2013. J'ai évoqué chemin faisant votre dernier ouvrage à la recherche du sauvage idéal, le bon sauvage, paru au seuil en 2017. Vous avez commenté, je l'ai dit, trois des discours majeurs de Nelson Mandela, c'est une édition Alma, en 2015. Et enfin, je veux rendre hommage à un livre que j'aime beaucoup personnellement, comme d'autres l'apprécient, Le rhinocéros d'or, histoire du Moyen-Âge africain. C'est un livre qui a obtenu le prix des rendez-vous de l'histoire de Blois, qui était salué aussi par le prix du livre d'histoire du Sénat. Comment est-il construit ?
De la même façon que le portrait de Mandela ne peut être que fait que par un collage de différents portraits, ce Moyen-Âge africain est un collage de fragments, parce que c'est tout ce qu'on peut faire avec le Moyen-Âge de l'Afrique. Il faut résister là à la tentation de la grande fresque et procéder par collage.
Tout en démontrant avec éclat que le propos d'un ancien président de la République comme quoi l'homme africain ne serait pas entré dans l'histoire était évidemment controuvé. Vous pourrez, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, retrouver une bibliographie complète sur notre site, avec les plus complètes, avec les références et documents sonores que nous avons utilisés, et bien sûr, écouter, réécouter et télécharger cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la présence des Anglais parmi nous. C'est le Brexit qui me conduit à cette interrogation spécifique, de 1789 jusqu'aujourd'hui, avec la collaboration de Diana Cooper-Richet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée, comme chaque samedi, par Anne Kobilac, avec Théo Gomard à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Annie Lozana. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères.